enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Évangile selon Luc, au chapitre 3. On va faire le chapitre 3 et le chapitre 4 de Luc. Ça commence avec la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous dit Luc, chapitre 3, verset 3, prêchait le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et voilà que Jean-Baptiste pouvait dire, conformément aux paroles du livre du prophète Ésaïe, « C'est la voix de celui qui prie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. » Ça vous rappelle quelque chose, ça ? « Toute montagne et toute colline seront abaissées. » Voilà donc la prédication de Jean-Baptiste. Une prédication claire, regardez au verset 7, « Race de vipère !» Ça, c'est agréable à entendre, non ? Vous êtes une race de vipères. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Baptiste. Hein. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère divine, produisez donc du fruit digne de repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà que Jean-Baptiste proclame, prêche un message de repentance. « Repentez-vous, leur disait-il, car le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous. Regardez après, verset 18. « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand Jean-Baptiste dit « race de vipères », c'est une bonne nouvelle. Quand Jean-Baptiste dit « repentez-vous », c'est une bonne nouvelle. Quand Jean-Baptiste dit « déjà la cognée est mise aux arbres », c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. En grec, l'évangile. Ça veut dire ça. Évangile. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Jean-Baptiste annonce l'évangile. Jean-Baptiste annonce la bonne nouvelle au peuple. Et voilà qu'il proclame haut et fort, il faut se repentir. Vous avez besoin de repentance. Et alors quand on demande à Jean-Baptiste, mais qui es-tu ? Es-tu le Christ ? Es-tu le Messie ? Es-tu celui que l'on attend depuis tant d'années ? Jean-Baptiste dira, je ne le suis pas. Il vient. Et je ne suis pas digne de délivrer la courroie des sandales de ses pieds, mais il vient, le Messie, le roi de gloire, Jésus arrive. Il dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert, celui qui est là pour aplanir ses sentiers, pour préparer son chemin, pour ramener le cœur des hommes à Dieu. Et comment Jean-Baptiste s'y prend-il ? En proclamant la repentance. Comment Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus ? En proclamant la repentance. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas d'autre préparation, si je peux dire ainsi, il n'y a pas d'autre étape préliminaire à la rencontre avec Jésus, le Sauveur, le Christ, le Messie, si ce n'est par la repentance. S'il n'y a pas la repentance, il manque quelque chose. La repentance, c'est ce chemin par lequel on doit passer pour nous amener à Jésus. On ne peut pas avoir de Sauveur s'il n'y a pas de repentance. On ne peut pas connaître Jésus comme Sauveur. Vous savez, dans quelques semaines, beaucoup vont chanter « Un Sauveur nous est donné, un Sauveur nous est né ». Non ? Mais pour réaliser que nous avons un Sauveur, il faut réaliser que nous sommes perdus. Comment dire « J'ai besoin d'un Sauveur si je ne sais pas que je suis perdu ». La repentance, c'est cette prise de conscience que nous sommes perdus, que nous sommes sur la mauvaise voie, que nous sommes sur le mauvais chemin. Et c'est la prédication de Jean-Baptiste. Vous êtes sur un mauvais chemin, revenez à Dieu. » Et alors qu'ils entendent cette proclamation du prophète Jean-Baptiste, qu'ils réalisent, le peuple réalise que oui, ils sont loin de Dieu, ils sont sur un mauvais chemin, ils sont sur la mauvaise voie, ils veulent revenir à Dieu, la repentance, un changement de mentalité, un changement de direction. Ils reviennent à Dieu, ils se font baptiser d'un baptême de repentance, c'est le baptême de Jean-Baptiste, et au travers de ce baptême, ils proclament « Oui, je reviens à Dieu, oui, je veux me tourner vers Dieu, oui, je veux changer de voie, je veux plus marcher sur un chemin qui emmène à la mort, qui emmène à la destruction, je veux plus marcher dans la vie comme si Dieu n'existait pas, je veux plus marcher dans la vie le dos tourné à Dieu, mais je veux marcher en me dirigeant vers Dieu, en ayant les regards fixés vers Dieu. » Et alors que l'on a qu'on est dans cet état d'esprit, alors qu'on dit « je veux vivre avec Dieu », le chemin est prêt, la voie est tracée, et le peuple est enfin prêt pour recevoir Jésus, recevoir le Sauveur, parce qu'ils étaient sur une mauvaise voie, et voilà maintenant qu'ils reviennent à Dieu. Jean-Baptiste prêche le baptême de la repentance de la même manière aujourd'hui. Il est nécessaire de passer par la repentance avant de venir à Jésus. Quelque temps plus tard, il nous est dit au verset 21, « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. » Est-ce que cela vous surprend d'apprendre que Jésus aussi a été baptisé par Jean-Baptiste? Oh, ça s'est pas fait sans peine, souvenez-vous, d'autres évangiles nous relate l'histoire avec plus de détails, où Jean-Baptiste va dire « Non, il n'est pas convenable que moi je te baptise. » Jean-Baptiste va dire « Non, si les autres ont besoin de repentance, c'est pas ton cas. » Jean-Baptiste va dire « Non, je ne veux pas te baptiser. » Jésus va dire « Laisse faire ce qui est convenable. » Est-ce que Jésus a besoin du baptême de repentance? Allô? Oui ou non? Ben pourquoi il a été baptisé alors? Pourquoi Jésus est baptisé par Jean-Baptiste? Oui, mais Jean-Baptiste ne voulait pas, d'accord. Mais Jésus a dit, c'est convenable que ça se passe ainsi. Ben, baptême de Jean-Baptiste, on a dit c'est un baptême de repentance. Et c'est quoi le but de ce baptême? C'est une consécration. On pourrait dire que c'est un baptême de consécration quelque part, d'un retour à Dieu. Ceux qui étaient loin de Dieu, voilà qu'en venant vers Jean-Baptiste le prophète, proclamaient haut et fort, nous nous réengageons, nous nous retournons, nous revenons vers Dieu, nous voulons vivre avec Dieu. Et Jésus, par ce baptême, baptême public, atteste haut et fort qu'il est là pour servir Dieu, qu'il est consacré, qu'il est celui qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Oh, Jésus n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit, dans le sens où Jésus était déjà sur la voie. Jésus n'est pas pécheur, Jésus n'a pas besoin de changer d'orientation. On le voit déjà, Luc nous le montrait, à l'âge de 12 ans, il s'occupait déjà des affaires de son père. Mais si Jésus là vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, c'est pour dire, voilà, ma vie, je veux qu'elle soit consacrée, qu'elle soit pour Dieu. Et alors que Jean-Baptiste est en train d'immerger, de baptiser Jésus, il nous est dit que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors que Jésus est là et que débute le ministère public, si on peut dire les choses ainsi, de Jésus, le Saint-Esprit descend sur lui. Le Saint-Esprit vient là et descend sur lui. Et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. De la même manière, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est celui qui veut descendre sur nous pour nous convaincre. Nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, pour venir nous amener la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit veut venir descendre sur nous afin de changer notre vie et de nous amener dans une nouvelle relation avec Dieu. Jésus démarre son ministère public de la même manière. Dieu veut que notre vie change, si ce n'a pas été encore le cas pour vous, et de dire oui, je veux pas vivre loin de Dieu, vivre le dos tourné à Dieu, vivre dans une voie qui conduit en enfer, mais vivre dans le chemin qui mène au Père, chemin qui conduit vers Dieu. Et alors qu'il y a ce départ, cette nouvelle vie, le Saint-Esprit est là pour venir attester, et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. De la même manière aujourd'hui, et l'apôtre Paul nous dit ces paroles, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, alors que l'Esprit descend sur Jésus, une voix se fait entendre, c'est bien mon fils. De la même manière, le départ de la vie chrétienne, ça se passe avec l'Esprit Saint, qui vient toucher notre cœur, qui vient changer notre vie, qui vient nous amener une vie nouvelle et attester au plus profond de nous-mêmes que nous sommes ses enfants. On avait parlé de ça dimanche dernier, si je me souviens bien, si j'ai bien écouté. Il y en a qui étaient là ? Alléluia. Ça, c'est le début. On voit donc, au chapitre 3, le Saint-Esprit descendit. Bien. Maintenant, au chapitre 4, Jésus, chapitre 4, verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais maintenant, au chapitre 4, on voit Jésus rempli du Saint-Esprit, comme une étape supplémentaire. Notez bien ce que dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Eh bien, il parle du Saint-Esprit et il dit « Nous avons reçu » et il est dit « Pierre rempli du Saint-Esprit ». Ouvrez la bouche et commence à parler. Pierre rempli du Saint-Esprit. Dieu est celui qui veut nous accorder son Esprit Saint afin de nous communiquer une vie nouvelle, mais pas un peu de son Esprit Saint. Nous ayons une plénitude remplie du Saint-Esprit. Qu'à l'intérieur, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il nous est dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parce que l'Esprit est en lui et qu'il l'a en abondance, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il entend la voix de Dieu. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui peut amener, conduire Jésus dans le désert. Je sais que certains préféraient être conduits ailleurs que dans un désert, mais Jésus est conduit dans le désert parce que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Si Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu être conduit dans le désert. Et de la même manière dans nos vies, si nous n'avons pas cette intimité avec Dieu, si nous n'avons pas cette plénitude de l'Esprit Saint, comment pouvoir entendre, comment pouvoir connaître? À un moment dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit, alors que là les apôtres étaient en voyage missionnaire et qu'ils voulaient se diriger vers Éphèse, Luc écrit « empêchés par le Saint-Esprit ». Et ils ont pris une autre direction. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tantôt nous conduit, nous dirige dans une direction, d'une autre manière, dans Actes, ils ont été empêchés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être conduit, d'être dirigé, de savoir qu'une porte s'est ouverte par l'action de l'Esprit-Saint, de savoir qu'une porte s'est fermée? Est-ce que vous pouvez dire, oui, aujourd'hui, c'est Dieu qui conduit ma vie, parce que je suis rempli de son Esprit, c'est lui qui me conduit dans telle ou telle direction? Ou est-ce que vous subissez la vie en disant, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop comment je vais, ça avance comme ça tout seul? Est-ce que Dieu conduit votre vie? Est-ce qu'il est votre bon berger? Est-ce qu'il est celui qui vous conduit près des eaux paisibles ou dans le désert, en l'occurrence au chapitre 4? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit votre vie? Jésus rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et quand nous avons cette plénitude, cette plénitude du Saint-Esprit, eh bien, il y a cette communion, cette intimité avec Dieu, Dieu nous parle, le Saint-Esprit dirige et conduit notre vie. Et certains disent, c'est vrai, moi j'aime la présence du Saint-Esprit, moi je veux être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir être conduit par Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne me sanctifier, pour que le Saint-Esprit puisse venir me faire du bien, me donner sa paix, venir m'apporter toutes sortes de grâces et de bénédictions. Oui, d'accord, ça c'est être rempli du Saint-Esprit, mais ça suffit pas. Ben, c'est pas fini. Regardez au verset 14. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il est au désert. Il va être tenté par le diable pendant, il va, au bout des 40 jours, rempli du Saint-Esprit. Il répond par la parole. Et on y est maintenant au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'il y a une différence là dans les mots? Jésus, revêtu. L'Esprit est descendu, Jésus rempli du Saint-Esprit, et maintenant, au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. On parlait tout à l'heure de la repentance comme étant le point de départ, et on a dit Jésus est passé par ce point de départ. Eh bien, Jésus est passé par ce point de départ pour être notre modèle, pour nous montrer comme exemple. Et de la même manière, le modèle s'arrête pas seulement le jour de son baptême, mais dans la suite du récit. Si Jésus s'est consacré à Dieu par ce baptême, si l'Esprit Saint est venu attester, cette voix s'est fait entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, si il est là rempli du Saint-Esprit, Dieu veut que nous aussi, l'Esprit de Dieu puisse venir nous remplir, nous diriger, nous conduire, mais aussi que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Revêtu. Et là, au niveau de l'image, j'aimerais vous bien vous amener à saisir que rempli, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais revêtu, c'est à l'extérieur. Et quand Jésus dit, le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, survenant sur vous, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Revêtu de puissance. Oui, Dieu veut que nous soyons à l'intérieur remplis du Saint-Esprit. Mais bien souvent, nous ne voyons que notre vie intérieure. Et quand on s'approche de Dieu, on dit, Seigneur, j'en veux pour moi, à l'intérieur, dans ma vie, pour être bien avec toi, pour être en communion avec toi, pour être dans la paix, pour être dans la joie, pour être béni, pour être restauré, pour être guéri, pour être là vraiment consolé, pour être fortifié, pour être bien dans ta présence. Et on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, pour qu'à l'intérieur, eh bien, il y ait vraiment une source fraîche à l'intérieur. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous soyons remplis à l'intérieur. Il veut que notre vie extérieure aussi soit revêtue de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, pour vous, chez vous, c'est juste à l'intérieur ou est-ce que c'est aussi à l'extérieur? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit va à Nazareth. Alors que Jésus est à Nazareth, dans la synagogue de Nazareth, il prend le livre du prophète Ésaïe, il prend ce rouleau et voilà qu'il commence à lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et non pas « L'Esprit du Seigneur est en moi ». Pourtant, oui, il est rempli. L'Esprit du Seigneur est bien en lui. Mais là, voilà qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Parce que l'Esprit est sur lui, parce qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, il peut proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. De la même manière dans notre vie, l'Esprit de Dieu en nous, c'est intime et personnel, et ça a à faire avec nous seulement. Oui, Dieu veut venir guérir à l'intérieur de nos cœurs, veut venir mettre la paix, veut venir nous restaurer, veut venir rafraîchir notre être, rafraîchir notre âme, veut venir nous bénir à l'intérieur. Oui, Dieu veut le faire dans ta vie, mais pas seulement à l'intérieur, aussi revêtu de puissance. Pourquoi ? Pour pouvoir à ton tour proclamer une bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, être là dans une autorité revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dit Jésus dans Actes 1:8. Vous en souvenez ? Actes 1:8. Je vous l'avais fait apprendre par cœur il y a 10 mois, un dimanche matin. Vous n'en souvenez plus ? On va vérifier les versets. Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Une puissance. Puissance. En grec, dynamis, qui a donné en français dynamite. Vous recevrez de la dynamite, le Saint-Esprit. Et on comprend qu'avec de la dynamite, on peut faire exploser la montagne. On comprend qu'avec de la dynamite, eh bien, le rocher, tout ce qui est devant nous, là, c'est une puissance. Et pas seulement une source qui vient nous rafraîchir et du bien-être à l'intérieur. Comme dire, Seigneur, c'est tellement bon ta présence et à l'intérieur, remplis-moi et que ça reste au plus profond de moi. Mais aussi, un manteau de puissance. Aussi un revêtement de puissance. Jésus revêtu du Saint-Esprit. Et parce que Jésus est revêtu du Saint-Esprit, parce que l'Esprit est sur moi, parce qu'il m'a oint, peut dire Jésus, eh bien là, alors oui, l'œuvre de Dieu peut se manifester en lui. L'œuvre de Dieu peut se manifester par lui. Il devient le messager, l'envoyé, le libérateur, le proclamateur. Et regardez ce qu'il est dit au verset 32, alors que Jésus prêche, alors que Jésus enseigne, alors que Jésus proclame, il est dit au verset 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parle avec autorité. Et si Jésus parle avec autorité, c'est parce qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. De la même manière en ce qui nous concerne, Saint-Esprit veut descendre sur nous pour nous amener à changer de voie et à nous consacrer à Dieu, comme au travers de ce baptême, pour nous amener à nous tourner vers Dieu. Oui, le Saint-Esprit veut nous remplir pour nous garder, pour nous protéger, pour nous fortifier. Souvenez-vous, Jésus a été rempli du Saint-Esprit et juste après, c'est l'épisode où le diable vient le tenter par 3 fois. Mais parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit, parce que à l'intérieur de lui, eh bien, il y a l'Esprit avec abondance. Jésus peut répondre avec la parole. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes ces paroles. Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il peut là résister à la tentation, résister au piège du diable, résister et sa vie peut rester sainte, peut rester pure, il peut marcher droit parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. De la même manière, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit pour qu'on résiste à la tentation, pour que son Esprit vienne nous rappeler sa parole, pour que son Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité, pour que son Esprit vienne nous éclairer sa parole, nous révéler sa parole. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, pour que son Esprit puisse venir vivifier. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie, que son Esprit vienne donner vie à sa parole. Oui, ça c'est rempli du Saint-Esprit. Mais il y a la troisième phase, revêtu du Saint-Esprit. Et parce que Jésus est revêtu du Saint-Esprit, il parle avec autorité. De la même manière, Dieu veut que vous soyez revêtu du Saint-Esprit et que vous parliez avec autorité. Quand vous parliez autour de vous de Jésus, de sa grandeur, de sa force, de sa puissance, ce soit avec autorité. Non pas d'une manière autoritaire. Vous voyez la différence ? Non pas en tapant sur les autres pour qu'ils se convertissent. Non pas en disant « t'as pas le choix, tu viens à l'église, sinon ça ira mal pour toi ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais parler avec assurance, avec conviction, en dénonçant ce qui est mal, oui. Et s'il y a des puissances ténèbres qui viennent s'opposer, pouvoir parler avec autorité. Jésus dit « voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. » Il faut une parole d'autorité pour chasser un démon, non ? Il y a eu quelques personnes qui ont voulu essayer, mais ils n'avaient pas l'esprit. On voit ça dans le livre des Actes, les fils de Sceva ont voulu essayer de chasser les démons parce qu'ils ont vu que Paul faisait ça, et se disent, tiens, nous on devrait être capables aussi. Et ils sont arrivés en disant, au nom de Jésus que Paul prêche. Je sais pas trop qui c'est, mais on a entendu Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, et ils ordonnent aux démons de sortir. Et les démons vont leur répondre simplement, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, vous êtes qui là? Non, vous avez pas lu ce texte? Et vous êtes qui, vous? A priori, il n'y avait pas d'autorité, hein, dans la parole. On peut avoir des paroles, on peut rendre témoignage, on peut dire toutes sortes d'affaires autour de nous. Il ne s'agit pas d'avoir des paroles et des mots. Il s'agit de proclamer avec autorité. Parce que l'Esprit est descendu sur nous, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, mais parce qu'on est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus parle avec autorité. Et quand les hommes l'écoutent, ils sont frappés par sa doctrine, frappés par son message, frappés par son enseignement. Même les gardes du temple, les huissiers du temple, nous rapporte l'évangile de Jean, même les huissiers du temple vont se dire, mais et vont dire ça même au docteur de la loi, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle avec autorité, avec force, avec puissance. Dieu veut et veut vous communiquer cette puissance. L'apôtre Pierre dira, le Saint-Esprit, cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Non seulement être rempli, mais être revêtu. Il parlait avec puissance, avec autorité. Regardez au verset 40, Luc chapitre 4, verset 40, c'est à 4:40. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades les ont amenés à Jésus. Et Luc nous dit simplement, « Il les guérissait. » Les démons aussi sortaient de beaucoup de personnes. Parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit, parce que Jésus est revêtu du Saint-Esprit. En ce qui nous concerne, nous en sommes où ? Est-ce que nous avons ce revêtement de puissance ? Quand on met un manteau, ça se voit. Non ? Allô ? Est-ce que quand vous achetez un habit, vous l'achetez pour la doublure ou pour l'extérieur ? Alors vous allez dire, oh ben des fois on aime bien une doublure chaude, hein, il faut que ce soit chaud, enfin les temps qui courent, quand l'hiver arrive, on choisit une doublure qui est chaude, d'accord. Mais c'est aussi pour l'extérieur, c'est aussi pour ce qui se voit. Quand on met un manteau, quand on met un habit, c'est pas pour l'intérieur, mais c'est pour l'extérieur. Même si on met un habit pour avoir chaud, pour être au chaud et pour être bien. De la même manière, le Saint-Esprit va nous garder, va nous protéger du froid, va réchauffer notre cœur, si on peut utiliser cette image. Mais c'est pas seulement pour nous garder au chaud, c'est aussi pour que ça se voit et pour que ce revêtement, ce manteau, eh bien, puisse être vu et qu'on n'oublie pas que ce manteau, c'est un manteau de puissance. Qu'on ne sous-estime pas la gloire, l'autorité, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul peut s'écrier aux Romains, et c'est le leitmotiv de toute son épître, et c'est même là le verset clé de tout Romain. C'est quoi le verset clé de tout Romain? Non. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Romains, chapitre 1er, verset 14. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est récurrent. C'est comme là, dès le départ, l'apôtre Paul annonce. Il y a quelque chose de puissant dans l'évangile. Et on voit par la suite. Oui, salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et après, il explique que si c'était pour le juif en Abraham, c'est aussi pour le grec, pour le païen, par la foi. Et c'est là quelque chose de puissant. Et c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le salut est pour tous, pour les enfants d'Abraham et pour les héritiers de la promesse qui, par la foi, obtiennent les promesses. Et cette justification par la foi, oui, c'est le thème de l'Épître aux Romains. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je me glorifie de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. En ce qui nous concerne, est-ce que c'est notre gloire? Est-ce que nous nous glorifions de l'Évangile? On retrouve cette expression assez souvent, et là dans le terme grec que l'apôtre Paul utilise, je n'ai pas honte, c'est vraiment je me glorifie. Je vais essayer une expression québécoise. Je me pète les bretelles. Pas ça? Comme ça? À ma femme, elle ne trouvait pas ça? J'apprends à ma femme le québécois courant. Avec l'Évangile, est-ce qu'on est fier de l'Évangile? Est-ce qu'on peut dire, moi, l'Évangile, c'est ma fierté, c'est ma gloire, j'en ai pas honte, parce que l'Évangile, ça marche, parce que l'Évangile, c'est fort, parce que l'Évangile, c'est puissant. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance. Et là, on peut remettre dynamite encore, c'est le même mot. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous, les premiers, nous pouvons dire, oui, c'est la puissance de Dieu pour mon salut. C'est cette bonne nouvelle qui m'a sauvé. Cette bonne nouvelle, on en a parlé pour Jean-Baptiste, qui commence par la repentance et qui continue par ce que Jésus a accompli sur la croix, par le don de sa vie, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, parce que Jésus a tout accompli, parce qu'il nous a libérés, affranchis, parce qu'il a pris sur lui le poids de notre fardeau, de notre culpabilité, de nos fautes, de nos péchés, et parce qu'il nous envoie son Esprit Saint, afin que l'Esprit descendant sur nous, nous soyons convaincus, nous passions de la mort à la vie, nous soyons vivants en lui, nous connaissions l'expérience de la nouvelle naissance, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit venant nous remplir, nous fasse du bien, oui, vienne restaurer notre aide, vienne nous rafraîchir, vienne comme nous faire boire auprès des torrents, auprès des eaux paisibles. L'Esprit au-dedans de nous vient nous protéger, nous fortifier, nous rendre forts, nous conduire sur un chemin de pureté, de sainteté, repoussant la tentation, réfutant les pièges du diable et marchant droit dans les chemins de Dieu. Mais non seulement ça, Saint-Esprit, nous revêtir de puissance afin de proclamer avec force et autorité la parole de Dieu, le nom de Jésus, afin de parler avec autorité, afin de manifester la puissance de Dieu par des signes, des prodiges, des miracles. Tous les malades étaient guéris quand on les amenait à Jésus parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et peut-être quelqu'un dira, mais nous, en ce qui nous concerne, sommes-nous aussi, avons-nous aussi reçu le Saint-Esprit, avons-nous aussi été remplis du Saint-Esprit, sommes-nous aussi revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Oui ou non? Et c'est pas dire, moi j'ai juste un petit manteau. J'ai un manteau de 3 cm carrés. Moi j'ai juste une petite étoffe. Non. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est venu changer ta vie, s'il est venu t'amener à la nouvelle naissance, si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est plus encore, tu as été revêtu, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu cette puissance, et ça a été manifesté, concrétisé, par le fait qu'ils parlaient dans de nouvelles langues, et ça a été comme le signe visible. Manteau, c'est visible. Le signe visible, eh bien, de cette réception, de ce revêtement de puissance qui s'est manifesté, concrétisé par la suite. Alors qu'il se faisait par les mains des apôtres toutes sortes de prodiges et de miracles à Jérusalem, on voit comment Étienne, rempli de grâce et de Saint-Esprit, accomplissait des prodiges et des miracles, comment Pierre accomplissait toutes sortes de prodiges et de miracles à tel point que même quand il montait au temple pour prier, on mettait les malades sur le bord du chemin, et quand l'ombre de Pierre touchait les malades étaient guéris. Il y avait toutes sortes de prodiges, de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Si vous aussi, vous avez été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, et j'aimerais que vous n'en doutiez pas ce soir, que personne dise, ben, peut-être que moi, quand mon ombre passe, ça fait de l'ombre à quelqu'un, mais c'est tout ce que ça fait. Ça guérit pas les malades. On va pas chercher une expérience là et essayer de reproduire ce qui s'est produit en ce temps-là. De la même manière, à un moment, vous avez prié pour des... on voit l'apôtre Paul qui avait prié sur des linges, qui a été envoyé, puis d'autres essayent de reproduire ça. Il ne s'agit pas de reproduire ce que les apôtres ont vécu, mais il s'agit d'avoir cette puissance. Et cette puissance, on l'a. Et cette puissance, vous l'avez. Et c'est là qui est des fois peut-être le drame de certains chrétiens, c'est de dire, mais Seigneur, on l'a. Et bien, si on l'a, tout va bien. Si c'est la puissance de Dieu qui vit en nous, si nous sommes revêtus de cette puissance, alors elle va se manifester. Alors elle va être à l'œuvre. Alors elle va être vue. Et il va y avoir les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent. Il va y avoir la manifestation du Saint-Esprit. Et on voit l'apôtre Paul aux Corinthiens expliquer la manifestation du Saint-Esprit. À l'un, parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une prophétie, pardon, parler en langue, une interprétation. À l'autre, le don de la foi, guérison, les miracles, ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut se manifester. C'est un manteau de puissance. Jésus revêtu du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que si Dieu veut nous revêtir de ce manteau de puissance, c'est afin qu'on manifeste cette puissance. Je vais prendre un autre exemple qui ne vaut pas grand-chose, mais je vais le donner quand même. Superman. Vous connaissez Superman? Les enfants, ils connaissent Superman? C'est à cause de sa cape qu'il vole, non? Superman. S'il n'avait pas sa cape, là, il ne volerait pas, non? Bon, supposons que c'est à cause de sa cape que Superman vole. Et puis qu'on vous donne la cape de Superman. Wow, vous allez faire quoi là tout de suite? Ah, je vais essayer de voler moi aussi, ça va être le fun. Non? Si vous avez la cape de Superman là, les enfants là, ou les bottes du chaboté, ou je sais pas quoi. Vous allez dire, ah ben moi je garde ça dans mon salon, je mets ça au pied, ça fait joli. La cape de Superman, c'est pas pour faire joli. C'est pas réussi. Mais comprends que, bon là on est dans le monde du rêve, hein. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Mais qu'on a là un manteau de puissance, et qu'on serait capable de le porter comme un manteau ordinaire, On serait capable de porter ce revêtement de puissance comme si on avait là quelque chose d'ordinaire. Mais mes amis, c'est un manteau de puissance. Vous recevrez une puissance. Et quel drame d'être là aussi riche, aussi fort, aussi puissant par l'Esprit Saint, par le nom de Jésus, et de pas manifester cette puissance et de pas user de ce privilège que Dieu nous donne par son Esprit Saint. Voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Eh bien, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons marcher à ta suite comme toi. Nous voulons là que le Saint-Esprit descende sur nous et nous consacrer à Dieu et nous tourner vers Dieu, passer par la repentance. Si certains ne sont pas passés par là encore, laissez-moi vous dire ce soir que c'est l'étape indispensable. Repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire reconnaissez que votre chemin, c'est pas le bon, et prenez les voies de Dieu. Jésus est le seul chemin. Se repentir, c'est reconnaître que par vous-même, vous n'y arriverez pas, et que vous avez besoin d'un sauveur. Il s'appelle Jésus. Que le Saint-Esprit puisse venir nous remplir, et pas seulement un peu, mais qu'on soit vraiment rempli du Saint-Esprit, et remplir à l'intérieur, venant guérir les blessures, venant restaurer, venant faire du bien, venant rafraîchir. Oui, Dieu veut nous faire du bien dans notre être intérieur. Mais soyons pas égoïstes en pensant qu'à notre être intérieur. Pensons aussi à tous ceux qui nous entourent et qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu aussi veut nous revêtir de puissance. Que l'Esprit de Dieu là puisse venir nous revêtir et que cette puissance soit manifestée pour honorer le nom de Jésus, pour célébrer la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de notre Dieu, et que ce monde sache que Dieu est vivant, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que le malheureux soit béni, parce que nous allons manifester cette puissance que Dieu veut revêtir sur chacune de nos vies. Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Ça, tout le monde le veut. Est-ce que vous voulez être revêtu du Saint-Esprit? C'est ce que Dieu veut pour vous, en tout cas. Que vous soyez là, des instruments entre ses mains, des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais inviter les musiciens à venir. On va prier quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole, elle est claire. Parce que ce que tu veux pour nous, c'est le meilleur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Parce qu'un jour, ton esprit est venu nous convaincre que nous étions sur la mauvaise voie, que nous étions pécheurs, que nous étions condamnés à l'enfer, mais que toi, tu voulais nous sauver. Seigneur, nous avons tourné, fait demi-tour, nous sommes convertis, nous sommes tournés vers toi, nous avons changé. Et toi, tu es venu transformer notre vie, transformer notre cœur. Nous avons réalisé qu'à la croix, tu avais tout payé pour nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ce soir pas fait cette expérience de vie nouvelle, de salut avec toi. Seigneur, puisses-tu les amener à se repentir ce soir, à réaliser qu'ils sont coupables, mais que toi, tu veux les pardonner et que tu as tout accompli pour cela. Seigneur, merci parce que tu veux nous remplir et tu connais ceux qui souffrent ce soir, ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui souffrent de blessures du passé, ceux qui ont besoin de restauration de leur âme, de leur être intérieur. Seigneur, que ton esprit puisse venir restaurer, guérir, visiter, faire une œuvre de restauration de leur vie. Que ton esprit puisse venir nous conduire comme tu as conduit Jésus, nous diriger, nous protéger. Que ton esprit puisse venir nous instruire dans ta parole. Que ton esprit puisse venir nous amener à éviter les pièges du diable et à repousser la tentation. Mais Seigneur, nous voulons aussi être revêtus de ta puissance. Nous voulons, Seigneur, être revêtus du Saint-Esprit pour manifester ta gloire, pour que tes œuvres soient manifestées, pour que l'Esprit Saint agisse avec puissance au travers de nous, pour que le malade soit guéri, pour que le malheureux soit secouru, pour que la bonne nouvelle soit proclamée avec autorité et force. Oh, pour que les cœurs brisés soient guéris, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Oh Seigneur, viens nous revêtir ce soir. Nous voulons plus de toi. de la puissance de ton esprit dans nos vies. Seigneur, nous réalisons que nous avons déjà en toi tout. Nous avons tout reçu. Seigneur, pardonne-nous de cacher trop souvent ce que tu nous as donné. L'Esprit Saint, pour qu'il soit visible. Seigneur, apprends-nous, fais-nous réaliser ce soir ta volonté, tes projets pour notre vie. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez recevoir davantage de l'Esprit Saint? Peut-être certains ce soir ont besoin que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Peut-être que d'autres disent, moi j'ai besoin d'être rempli, il y a des choses dans ma vie qui doivent... J'ai besoin que le Seigneur vienne me guérir dans mon cœur. Peut-être que quelqu'un d'autre dira, moi j'ai besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir un revêtement de puissance. Peut-être quelqu'un d'autre dira, moi je laisse le revêtement de puissance, mais je ne sais pas m'en servir. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. J'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux, qu'il vienne me convaincre de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, de la puissance qu'il y a dans l'Esprit Saint. Alléluia. Si vous voulez faire des progrès ce soir, je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Peut-être à vous approcher sur le devant comme pour dire, Seigneur, je viens devant toi, pour dire que j'ai tant besoin de toi. Oh, me voici devant toi, assoiffé de ta présence. Alléluia. Que ma coupe déborde, pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Alléluia. Alléluia, nous sommes dans ta présence.
Assoiffé de ta présence.
Oh, voulons voir ta délivrance à l'œuvre dans ce lieu.
Je livre la délivrance. Je veux ta rivière.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.